penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi. Une émission en dialogue animée par des enseignants et des étudiants de l'IURP à Toulouse.
Bonjour Régine.
Bonjour Père Poirier, nous parlons ce mois-ci avec vous, donc dans l'émission « Penser et dire sa foi » du Pentateuque. Père Poirier, je rappelle que vous enseignez l'exégèse de ces livres à la fois à l'IERP et à la faculté de théologie. Alors, la semaine dernière, vous nous avez dit que le mot « Bible » était en fait un mot pluriel. Pourquoi dit-on dans ce cas le Pentateuque ? Est-ce un singulier ? Ou un pluriel, et d'où vient ce mot ?
Il en va du Pentateuque, donc du mot Pentateuque comme du mot Bible, c'est-à-dire ce sont des mots qui à l'origine sont des pluriels et qu'on a fini par entendre au singulier. Alors le Pentateuque, penta, tout le monde sait que ça veut dire cinq. Alors par contre, teuk, on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire. Alors en fait, ça vient d'un mot grec, teukos, qui signifie l'étui, et en fait, c'est l'étui dans lequel on rangeait les rouleaux. Donc on pourrait, si vous voulez, comprendre le Pentateuque comme les cinq rouleaux. Et vous savez qu'on nous montre à un moment donné Jésus dans la synagogue de Nazareth qui déroule le livre du prophète Isaïe. Donc il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, c'était sur des parchemins qui étaient roulés, donc mis dans des étuis. Et donc les cinq rouleaux, c'est le Pentateuque. Mais alors pourquoi donc le qualifier de le Pentateuque et pourquoi ne pas dire les cinq rouleaux ? Ben c'est pour dire l'unité, vous voyez ? Un peu comme la Bible a une unité en plusieurs livres, eh bien le Pentateuque, il y a une unité.
Dans ce cas, qu'est-ce qui constitue l'unité du Pentateuque ?
Alors il y a plusieurs principes d'unité, si je puis dire, dans le Pentateuque. Alors un premier principe d'unité serait la figure de Moïse. Dans la tradition juive, d'ailleurs, l'une des façons de nommer le Pentateuque, c'est de parler des cinq livres de Moïse. Et on veut dire par là que c'est Moïse qui est la figure humaine, enfin en tout cas l'une des figures humaines principales de l'ensemble du Pentateuque. Et de fait, le Pentateuque s'achève avec la mort de Moïse. Donc voilà un premier principe d'unité. Un second, c'est de l'appeler, toujours dans la tradition juive, Torah, c'est-à-dire qu'on entend d'abord ou souvent comme loi, c'est-à-dire que ces cinq livres du Pentateuque forment, si vous voulez, la constitution, en quelque sorte, de l'Israël ancien. Lorsqu'on revient de l'exil, on a besoin d'avoir un ensemble qui constitue le socle de l'identité d'un Israël qui s'est pas mal fragmenté, et qui a besoin vraiment de se constituer en un peuple. Et il faut avoir un ensemble référentiel, et ça va donc être le Pentateuque. Voici les deux grands principes d'unité qu'on peut... Alors il y en a d'autres, hein, mais qu'on peut déceler.
Alors peut-on dire dans ce cas que Moïse, cette figure presque héroïque, en serait l'auteur ?
Alors, vous avez raison de poser cette question, parce que pendant très longtemps, on a compris, lorsqu'on parlait des cinq livres de Moïse, que Moïse en était l'auteur. Et c'était une grande tradition qui a été critiquée à partir du Moyen-Âge, d'ailleurs, et sur laquelle on s'est battu pendant très longtemps. Mais ici, il faut dire que la notion d'auteur aux époques anciennes n'est pas du tout la même que la notion d'auteur que nous pouvons avoir aujourd'hui. Si par exemple, chère Régine, vous publiez un livre et que vous le publiez sous le nom de Marguerite Yourcenar, j'imagine que vous allez avoir quelques problèmes, n'est-ce pas ? En revanche, si vous êtes Marguerite Yourcenar et que vous publiez les mémoires d'Adrien, on ne va pas vous contester la chose, parce qu'on va très bien savoir que ce n'est pas Adrien, mais que c'est fictivement les mémoires de l'empereur Adrien. Eh bien, de la même façon, le principe d'auteur dans les époques anciennes ne fonctionne pas du tout aujourd'hui comme celui qui a effectivement rédigé. Mais c'est en quelque sorte une figure tutélaire, si vous voulez. Et en fait, Moïse, il est la figure tutélaire du Pentateuque, parce que c'est celui qui est monté sur la montagne où il a parlé face à face avec Dieu. Dieu l'a traité comme un ami, Dieu lui a donné sa parole, Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a confié le nom qui est son nom propre, hein, que par respect pour les Juifs, je prononcerai Adonai, qui constituait des quatre lettres, hein, Yod He Vav He, hein, et qui donc a remis tout l'ensemble de cette loi à Moïse. Et donc Moïse est le médiateur par excellence, est aussi le libérateur. Et donc c'est pour cela qu'on va placer l'ensemble du Pentateuque sous sa figure, si vous voulez, tutélaire. Mais cela ne veut pas du tout dire que c'est lui qui l'a rédigé, même si dans le livre du Deutéronome, on nous dit qu'il a écrit à un moment donné la loi, mais en tout cas une partie de la loi. Mais il ne faut pas penser à lui comme un écrivain, mais plutôt à quelqu'un qui vit ses expériences et que bien après, n'est-ce pas, on va placer sous cette figure tutélaire toutes sortes de choses qui sont évidemment bien postérieures à l'époque de Moïse. Si je peux prendre un autre exemple, par exemple le code Napoléon, même si c'est Napoléon qui en a supervisé la Constitution, c'est pas lui qui a écrit tous les articles.
Peut-on dire dans ce cas que Moïse, s'il n'est pas complètement l'auteur, en tout cas, est le principal héros du Pentateuque?
Alors j'ai envie de vous répondre oui et non. Tout d'abord, oui, parce que pour les raisons que je viens de dire, c'est-à-dire qu'en fait, il occupe pratiquement 4/5 des livres du Pentateuque, puisque le livre de l'Exode commence quasiment dès le chapitre 2 avec le récit de sa naissance, et que la fin du Pentateuque, le chapitre 34 du Deutéronome, s'achève avec le récit de sa mort. Et entre les deux, on pourrait dire qu'il est le principal héros humain. Mais le livre de la Genèse va nous montrer d'autres héros que nous connaissons bien. Alors il y a d'abord ces personnages très mythiques, hein, que sont Adam et Ève, que sont Caïn et Abel. Ensuite, on va trouver Noé, le personnage de Noé. Et puis on va trouver les trois grands patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, et puis les 12 fils de Jacob, dont Joseph. Et Moïse n'est bien entendu pas encore né, et donc il n'est pas le seul héros du Pentateuque. Mais si on voulait trouver un véritable héros du Pentateuque qu'on trouve du début jusqu'à la fin, ben c'est Dieu lui-même. Et en fait, c'est Dieu qui se constitue un peuple pour se révéler à lui, pour porter son nom, et pour porter en quelque sorte son projet d'une humanité unie autour d'une loi et porte un projet, oui, d'alliance entre Dieu et les hommes et également une alliance qui intègre toute la création. Donc voilà quel pourrait être l'un des thèmes, en tout cas, centraux du Pentateuque qui, comme vous le voyez, dépasse la figure de Moïse, même si Moïse en est une figure exemplaire.
Vous avez parlé du nom, Père Poirier. Ce nom, il a donné lieu à énormément d'écrits. Je ne sais pas d'ailleurs si la question est
fermée. Oui, les philosophes s'en sont emparés. Alors, ce nom, c'est en quelque sorte le nom propre du Dieu d'Israël. Toutes sortes d'hypothèses existent sur son origine d'ailleurs. Mais ce que nous savons, c'est que deux choses. La première, c'est qu'on a opéré très tôt un lien avec un verbe qui est le verbe être en hébreu. Et l'un des récits où il révèle son nom, on joue sur ce verbe puisqu'il se révèle comme étant celui qui est. Je suis celui qui est. Et donc, il y a eu toutes sortes, vous voyez, vous pouvez imaginer combien les philosophes, mais aussi les théologiens ont pu s'emparer de cette connivence entre ce nom et le verbe être. Il est l'être par excellence, vous voyez, celui qui donne d'être. Voilà. Mais d'autre part, c'est un nom qui est en quelque sorte son nom propre, et donc il révèle son identité. Mais vous savez que, peut-être nos auditeurs ne savent pas nécessairement parce que nous sommes dans une autre culture, mais nous sommes dans des cultures où le nom représente la personne, où le nom est la personne. Et on ne nommait pas n'importe comment, on n'appelle pas n'importe comment. Et d'ailleurs, dans le Décalogue, il y a ce commandement qui, à mon sens, est trop souvent oublié. Tu ne prononceras pas à tort le nom de Dieu. Et de ce fait, dans le judaïsme, par respect pour ce nom, mais par respect pour la personne même de Dieu et sa révélation, on s'est abstenu de prononcer le nom. Et quand on le rencontrait, quand il était écrit, quand il était reçu, on utilisait le terme Adonai, qui veut dire mon Seigneur. Et c'est pour ça que, par exemple, dans la traduction œcuménique de la Bible, chaque fois qu'on a ce tétragramme, donc ces quatre lettres, on a Seigneur avec des petites capitales. La Bible de Jérusalem, elle, a préféré prendre le nom de Yahvé, qui est une vocalisation possible de ces quatre lettres. Personnellement, je préfère utiliser Adonai par respect pour nos frères juifs.
Père Poirier, merci infiniment pour tous ces éclairages passionnants. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et pour les auditeurs qui voudraient creuser encore plus cette question, je vous donne rendez-vous au second semestre à l'IERP de Toulouse pour suivre l'enseignement du Père Poirier.